blanche.
40 nuances de Next.
Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
40 nuances de Frédéric de Gombert, CEO d'Akeneo, partie 2, c'est tout de suite. Frédéric, donc on ne s'est pas vraiment quitté, mais on reprend ensemble sur cette partie qui t'est dédiée, qui est dédiée à l'homme derrière l'entreprise. Je te propose de parler de toi.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ?
On plonge peut-être dans l'enfance et on va chercher ces indices qui ont parsemé un chemin qui t'a amené jusqu'à diriger Akeneo aujourd'hui.
J'étais un enfant près lambda, je pense. Assez geek.
Déjà.
Ouais, j'étais bercé dans les jeux vidéo et les jeux de rôle. Je pense qu'il y a deux choses qui ont marqué mon enfance et mon adolescence. C'est les jeux vidéo et le théâtre. Et en fait, quand je suis arrivé au moment de devoir faire un choix à la sortie du lycée en disant « Bon, maintenant, Fred, tu fais quoi ?» J'avais deux choix. Soit je devenais développeur pour faire du jeu vidéo et vivre de ma passion. Soit je devenais comédien.
Pour vivre d'une autre passion.
Pour vivre de mon autre passion.
Laisse-moi deviner.
J'ai senti que mes parents n'étaient pas complètement partants sur le fait que je devienne comédien. Et les jeux vidéo, avec l'informatique, j'aurais pas forcément dit que je voulais faire de l'informatique pour faire des jeux vidéo. C'était
ouais.
Faire de l'informatique. Et ça passait bien comme ça. C'est ce qui m'a amené à embrasser cette carrière.
Et alors, tu as fait des jeux vidéo pendant toute ton enfance. Et pourtant, tu n'es pas un psychopathe, un serial killer.
Je me soigne pas mal, ouais. Non, pas du tout. Bah non.
Non, mais on a entendu beaucoup de choses sur l'usage des jeux vidéo. Comme on en entend aussi, et moi je suis plutôt partisan de limiter les écrans avec mes enfants, par exemple. Mais néanmoins, j'ai l'impression qu'on entendait ça pareil sur les jeux vidéo.
Ah non, mais les jeux vidéo, on a entendu tout et n'importe quoi. Surtout il y a une trentaine d'années où c'était vraiment. C'était le nouvel antéchrist, quoi. C'était après le rock'n'roll, les jeux vidéo et le jeu de rôle. Donc moi, je cumulais les deux en plus. Donc j'étais vraiment un sataniste terroriste en puissance. Mais non, je pense qu'au contraire, c'est extrêmement formateur. Moi, je dis souvent à mes équipes, quand on recherche des managers, je leur dis, moi, c'est une question, un critère que je peux regarder parfois, c'est des gens qui ont fait du jeu massivement multijoueur. Quand on fait du jeu de rôle massivement multijoueur, du World of Warcraft ou d'autres jeux de ce type, ça demande une discipline incroyable parce qu'on joue en groupe. Il y a un certain temps du jeu.
Donc c'est des horaires, il faut être présent à porter l'attaque.
Et des gens qui ont été ce qu'on appelle raid leaders, enfin des gens qui gèrent ces groupes de 20-40 personnes, c'est faire en sorte qu'ils ont bien compris où est-ce qu'on va, comment on doit se positionner, etc.
Et qu'ils soient toujours motivés pour être là.
C'est des vrais skills de leadership. C'est vraiment des compétences de leadership qui sont vraiment applicables quasi telles quelles dans le monde de l'entreprise. Donc, tout n'est pas acheté, en fait, dans le jeu vidéo.
Je fais forcément un parallèle, mais quelles skills tu as utilisé de tout se passer aujourd'hui au quotidien chez Akeneo?
Peut-être la pédagogie. On va dans un nouveau donjon, on va taper un nouveau boss. Il y a une technique très particulière pour pouvoir y arriver. Donc, il faut expliquer à 40 personnes qui sont toutes chez elles avec leurs contraintes personnelles, parce qu'il y a des enfants, il y a d'autres choses qui se passent autour, comment chacun doit interagir. Et il faut que tout le monde se mettre en route au même moment, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et on ne progresse dans le jeu que comme ça. Et donc, ça force à être extrêmement pédagogue, à prendre du temps, à essayer de simplifier pour être sûr que tout le monde a le même niveau d'information. Donc, ça paraît sans doute un peu idiot.
Non, mais...
Mais c'est une vraie école.
Bon, en tout cas, l'expérience, tu vois que ça fait ses preuves.
Absolument, oui.
Ouais. Tu disais qu'il y avait un deuxième point dans l'enfance, l'adolescence qui avait forgé qui tu étais et comment tu es arrivé là. Ou c'était les jeux vidéo d'un côté,
le jeu vidéo et le théâtre de l'autre.
Et alors le théâtre
Le théâtre, écoute, j'ai fait du théâtre au collège et au lycée. Dans le cadre de l'école, j'aimais beaucoup ça. J'ai eu la chance d'avoir un metteur en scène, dont c'était le métier, qui venait donner ses cours de théâtre et qui montait des pièces avec des élèves du collège et du lycée. Et j'ai fait ça 4 années de suite, jusqu'au bac. Et ce metteur en scène m'avait proposé de dire, écoute, je monte une pièce. À l'époque, c'était Roméo et Juliette. Je monte Roméo et Juliette et j'ai un rôle pour toi. Est-ce que ça t'intéresse? Et c'est à ce moment-là où je fais, mais je ne sais pas.
Je ne sais pas bien quoi faire.
Donc, j'ai choisi l'informatique à ce moment-là. Et en fait, le théâtre m'a rattrapé des années plus tard, à la fin de mes études. Ouais, c'était quelques années après la fin de mes études, où je suis retombé complètement par hasard dans le théâtre d'improvisation. Et où j'avais un copain qui faisait ça et qui, à un moment, m'a dit « Bah tiens, notre troupe recrute des nouveaux membres, est-ce que ça t'intéresse d'essayer ?»
Et t'as embarqué.
Et j'ai embarqué. On était à Paris et je me suis retrouvé dans une troupe qui, en fait, avait un niveau bien supérieur au mien, mais qui m'a tiré vers le haut. Et on s'est retrouvé à jouer tous les dimanches soirs dans un théâtre parisien. Puis, progressivement, eux sont devenus pros. Après, quand je suis parti pour monter à Kenéo, j'ai quitté la troupe. Et eux ont continué.
Et quelles leçons ou skills t'as tiré de tout ça?
Alors l'impro, il y en a des tonnes, mais je pense que la plus importante, c'est sortir de sa zone de confiance. C'est vraiment accepter de...
C'est une mise à nu.
C'est une mise à nu, oui. Accepter d'aller à un endroit où on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est... Parce que quand j'ai monté à Kenéo, si tu veux, donc c'était en fin 2012, j'avais déjà une carrière derrière moi. J'avais fait 8 ans dans la même boîte, dans une SS2I, où je gagnais bien ma vie, c'était confortable. J'avais une bonne routine. Et je pense que sans l'impro, sans ce goût de la mise en risque, de la mise en danger, je ne suis pas sûr que j'aurais franchi le pas. Et ça, c'est un vrai truc que m'a appris l'impro. Et l'autre, c'est de travailler en équipe. Nous, on avait toujours un mantra dans notre troupe qui était « Make the other look good ». Le but, c'est de faire en sorte que l'autre paraisse bon. Parce qu'en fait, quand on est en impro...
Il y a des règles. On parle d'impro, mais il y a des règles.
C'est extrêmement...
Codifié.
Ouais. Ouais, absolument.
Bah déjà, pas dire non.
Voilà. Bah ça, c'est le premier truc, ouais. C'est le premier truc qu'on apprend. Pas dire non.
Dire aux propositions
oui
qui sont faites.
Et rebondir. Ouais, ouais. Et ça, pareil, dans la vie professionnelle. Moi, régulièrement, je fais venir des improvisateurs dans nos séminaires d'entreprise pour essayer de diffuser un peu ça. Parce que ce qui est amusant quand on fait faire de l'impro à des gens, c'est que, justement, dans le cadre d'une activité en entreprise, c'est que, généralement, il n'y a personne qui n'a jamais fait d'impro dans le groupe. Et donc, tout le monde se retrouve, quel que soit son titre, son niveau d'expérience, son poste...
À peu près au niveau...
Tout le monde est à poil. Ouais, ouais. Tout le monde est à poil, tout le monde est au même niveau. Mais tout le monde va... Si on arrive à créer cet environnement de bienveillance...
De confiance, ouais,
et de confiance,
sûr, ouais.
Chacun va se sublimer. Et ça crée... Un, des super souvenirs. Et deux, je pense que ça, souvent, ça aide beaucoup chacun à apprendre sur soi,
ouais,
personnellement, à quel est mon rôle au sein d'un groupe, comment je peux rendre le groupe meilleur. Et c'est des super leçons.
Oui, comme ça, ça a peut-être l'air de rien, mais ça forge des petites choses chez chacun qui servent ensuite
à la fois individuellement
un collectif, ouais,
et aussi au sein du collectif.
Tout à fait. Ouais. Alors, j'ai des questions. Je vais partir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit ça attaque profond l'entrepreneuriat. Tu peux développer? On est sur la partie perso.
J'ai parfois dit à des amis qui se lançaient justement dans l'entrepreneuriat, dire la pire chose qui peut t'arriver en tant qu'entrepreneur, c'est de réussir. Parce que planter, c'est... Je ne vais pas dire que c'est facile, c'est pas facile, c'est dur, c'est une épreuve. Mais en fait, quand tu montes une boîte, les gens s'attendent à ce que tu te plantes. C'est crétin, mais c'est comme ça. Comme c'est un risque, de la même manière, et là je refais mon parallèle avec l'impro, quand les gens vont voir de l'impro, un spectacle d'improvisation, ils s'attendent à ce qu'à un moment, le comédien fourche, se plante, décroche, de son texte. Quand on crée une start-up, quand on crée une boîte, on s'attend à ce que ça se passe.
Parce qu'il y en a plein des raisons de décrocher.
Parce qu'il y en a plein. Oui. Et pas forcément des raisons liées à l'entrepreneur lui-même. On ne trouve pas son market fit, on n'est pas associé avec les bonnes personnes.
Le Covid, le machin.
Il y en a plein. Donc on s'attend à ce que ça se plante. Et quand ça ne se plante pas et que ça commence à marcher, et ben le cercle des attentes de ton entourage, il devient d'un coup, ah mais si ce n'est pas planté maintenant, ça devient normal. En fait, tu deviens un entrepreneur qui a réussi. Et donc là, le niveau d'exigence, de pression sociale, en fait, autour de toi, il devient 10 fois supérieur parce que les gens, maintenant que tu as passé ce premier cap et que tu ne te plantes pas, eh ben, ils s'attendent à ce que tu ne te plantes plus jamais et que tu continues à grandir. Et d'un coup, tu incarnes un truc un peu... modèle de réussite.
40, quoi.
Voilà, qui est un truc qui est vraiment pas simple à vivre parce que
les risques sont quand même toujours
parce
là.
Parce que les risques sont toujours là et l'impact est beaucoup plus fort. Enfin, planter une boîte de 400 personnes, c'est pas le même impact que planquer une boîte de 10 personnes, quoi. Donc, il y a une pression qui est décuplée. Et de manière complètement inconsciente, hein. Ce sont des biais. Hein.
Non, mais en tout cas, là, je te pose la question, tu le ressens comme ça. Voilà.
Et oui, et donc quand je disais ça t'attaque profond, et ben chaque petit échec, chaque petit marche qu'on rate prend des proportions énormes, pas de la faute des autres, mais par la faute de la pression que toi tu te mets
vis-à-vis du regard
des autres, quoi. Et donc c'est voilà.
T'arrives à t'en détacher parfois ?
Non, c'est très compliqué. On apprend à vivre avec, on ne s'apprend pas à s'en détacher. J'avais lu une interview d'un entrepreneur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jason Lemkin, qui est un Américain qui était l'ancien patron d'une boîte qui a monté Adobe Sign, qui a revendu sa boîte. Ça s'appelait EcoSign, c'était les pionniers de la signature électronique. Et donc, qui a un site qui s'appelle Saster, qui anime beaucoup la communauté du software mondial. Et il avait répondu à la question, est-ce que vous êtes heureux ? Est-ce qu'un entrepreneur peut être heureux ? Et il avait fait cette réponse de dire, je me lève tous les matins en étant content de ce que je vais faire, mais c'est juste un tout petit peu trop difficile pour que je sois heureux. Et je trouve que ça résume bien l'idée, c'est que c'est un sentiment qui est toujours très accroché à toi et dont tu ne te débarrasses pas. Quoi. Voilà.
Cette idée de on voit le verre à moitié plein, mais il ne l'est jamais.
Exactement. Ouais. Et on voit le verre à moitié plein, parce qu'on est des entrepreneurs, des optimistes, donc on voit toujours le verre à moitié plein.
À aucun moment, tu t'es dit là, c'est bon. Enfin, j'ai atteint ce que je m'étais fixé comme objectif, ou inexorablement, comme quelqu'un qui achète une nouvelle maison, mais une fois qu'il est dedans, se dit elle est trop petite, etc., etc. Ben finalement, jamais rassasié, peut-être pas le mot, mais jamais contenté.
C'est pas une question de contentement. Je pense que c'est il y a un mélange de deux choses. Un, je pense que quand on a monté Akeneo, il y a parfois des entrepreneurs qui ont une vision très claire dès le premier jour du potentiel que peuvent avoir leur boîte. C'était pas notre cas du tout.
Vous avez été surpris.
Je suis très honnête avec ça. On s'attendait pas du tout. On sous-estimait la profondeur de notre marché et l'importance de la donnée produit pour les marques et les distributeurs. Donc, quand on a démarré, pour nous, si on arrive à 100 personnes, ce sera déjà une très très belle boîte, quoi. Et puis plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, le potentiel est exceptionnel. Et qu'on est sur un marché, c'est ça qui nous fait lever le matin aussi. Hein, c'est qu'on sait qu'on a devant nous la capacité de créer vraiment une nouvelle catégorie, quoi. Et d'être, on est au balbutiement. Ouais.
Il y a un côté compétiteur. Finalement, vous pensiez arriver au big boss de la fin, et puis en fait, vous êtes collévalent.
Exactement. Voilà. Exactement. Ouais. Si on file la métaphore du jeu vidéo jusqu'au bout, je te remercie. Mais oui, c'est exactement. Et donc, il y a un côté un peu enivrant de ça, de se dire, ah bah, en fait, le marché, il est vraiment très grand et on n'est pas du tout au bout de ce qu'on veut faire. Et je pense que c'est ça la question qu'on se pose à chaque fois, c'est de se dire, c'était peut-être pas l'ambition du départ, mais on a envie d'aller voir encore ce qu'il y a de plus loin. C'est comme un peu, pour changer complètement de domaine, mais tu parlais de montagne tout à l'heure. Bon, bah voilà, on arrive en haut d'un sommet, puis on se rend compte qu'en fait, il y en a encore plus grand, quoi. Et que finalement, ça nous va bien d'aller essayer de le faire aussi, celui-là.
Si t'es pas heureux à 100%, parce que c'est aussi ces pourcents manquants qui font qu'on se lève, qu'on a envie. Est-ce que tu te projettes sur un instant de ta vie où ce sera atteint?
C'est compliqué, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que paradoxalement, je ne me vois pas faire autre chose. Je ne sais pas faire autre chose que ce que je fais aujourd'hui.
Demain, tu vends à Kenéo ou la boîte se plante, enfin dans un sens ou dans l'autre. Zéro.
Si, mais je ferais. Enfin, rien à voir avec. Je pense que je repartirais dans le théâtre, pour le coup.
Ouais.
Je retournerais à mon autre passion. Mais c'est pas un projet. C'est pas un projet. Et aussi, je me méfie de moi-même et de mon côté aussi entrepreneur. C'est que je sais que je préfère éviter de réfléchir à l'après. Parce que je.
Ça peut.
Je veux pas que,
perdre,
que ça vienne cannibaliser le présent, quoi.
Ouais.
Je veux juste repréciser un truc.
Bien sûr.
De toute façon, je fais pas du misérabilisme. Hein. Je suis très conscient de la chance que j'ai de faire ce que je fais. Voilà.
Je pense que ça, c'était entendu. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce qui nourrit l'envie de faire plus, de se dépasser. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est assez clair. Mais maintenant que c'est précisé, je pense que s'il y avait encore des doutes, c'est réparé. Je te propose de se questionner sur l'à côté de l'entrepreneuriat avec aussi un besoin de souffler, de respirer, de s'inspirer.
S'inspirer. Respirer.
Quels sont les à côté d'Akeneo, s'il y en a? Si tu arrives à en avoir.
Les à côté d'Akeneo. Ma famille, déjà. Je pense que c'est ce qui passe en premier aujourd'hui. Le théâtre que j'ai complètement mis de côté, mais que je garde toujours dans un coin. Je le disais tout à l'heure que je garde toujours un peu dans un coin de ma tête. Et les jeux. Voilà. Plus trop les jeux vidéo. Maintenant, je suis plutôt jeu de société. J'essaie de. Parce que c'est plus. Ça permet de retrouver
plus
avec des copains,
ouais.
Plus convivial. Mais c'est le mot. C'est comme ça que j'arrive à me détendre.
Tu joues à quoi?
En jeu de société.
Ouais.
Tout type de jeu. Mais voilà. Mon jeu de l'été, voilà, c'est un jeu qui s'appelle Acropolis, qui est un jeu de tuiles, de placement. C'est tout bête, mais ça marche très bien.
Catan, non, un peu différent.
C'est un peu comme, ouais, un peu ce style-là.
Okay.
Mais un jeu très familial. J'ai réussi à faire jouer mon père à ça. Donc c'est un bon indicateur du niveau de facilité.
Accessible.
D'accessibilité. Pas de facilité.
Ouais, ouais.
D'accessibilité.
C'est pas pareil.
Ouais.
Pardon, tu parlais de ta famille avec Louis, le patron d'Alma, la dernière fois, dernier tournage. Il nous disait aussi la difficulté. Pourtant, il se pense être un bon père, mais cette difficulté à être parfait partout. Ça, je pense que pour un entrepreneur en quête de compétition, il peut y avoir cette envie d'être bon partout, d'avoir des victoires sur tous les terrains.
Ouais, bah c'est compliqué. Alors, mes copains me le rappellent régulièrement sous tant de moi, mais quand j'ai monté à Kenéo, je me souviens très bien, je leur avais dit, ma fille n'était pas née, elle est née un an après, et je leur avais dit, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'elle ne se souvienne jamais de cette période-là. Sous-entendu, j'aurais fini ce projet-là avant.
Donc bon, j'aurais du temps.
10 ans après, ouais. On n'y est toujours pas. Hein. Et non seulement on n'y est toujours pas, et en plus, je passe la moitié de mon temps à Boston, je suis 2 semaines par mois absent. Donc, c'est pas un exercice facile d'être présent, d'être. De partager des moments avec elle, qui ne soient pas que les bons moments, parce que je pense que c'est important aussi
d'être là
tout le temps.
Enfin, des fois, tout le temps, dans les moments bons et mauvais.
Ouais, ouais. Et puis ouais. De pas. Parce que c'est facile aussi, quand on n'est pas là beaucoup, de ne garder que les bons moments et que de laisser le quotidien un peu dur
à sa compagne. Son compagnon. Ouais.
Et donc, j'essaye du mieux que je peux, mais c'est évidemment pas simple. Et ce qui est certain, c'est qu'elle se souviendra d'Akeneo. Ça, c'est...
Et t'arrives à lui faire comprendre le pourquoi ?
C'est pas simple encore. Elle a 8 ans, donc elle commence à poser des questions. Déjà, lui faire comprendre ce qu'on fait à Keneo, c'est compliqué. Hein. C'est
oui,
pas,
sur le fond, le business. Le fond, business.
Je pense qu'elle a une vision très biaisée de ce que c'est que l'entreprise, parce que pour elle, à Keneo, c'est quand le vendredi soir, on l'emmène au bureau pour aller boire un verre. On a un bar, on a un pub dans notre bureau. Donc pour elle, le bureau, c'est...
On boit des coups avec les collègues.
Coups avec des collègues, quoi. Voilà. Donc elle a une vision un peu particulière. Je pense qu'il va être un peu compliqué le jour où elle rentrera dans le monde du travail de se confronter à la réalité. Mais non, je pense que oui, elle comprend pourquoi on le fait. Elle comprend que c'est ça qui nous fait bouger. La particularité, c'est que ma femme travaille aussi chez Akeneo, donc on travaille tous les deux ensemble. Donc elle est vraiment bercée, baignée dans Akeneo tout le temps.
Tu me parles de ta femme, ça tombe bien.
Vous avez un message.
Si tu avais la possibilité de revivre un moment, quel serait-il ?
C'est une question piège. Alors j'imagine que c'est moment perso ou pro.
Ah bah là tu te débrouilles avec avec cette question.
Parce que c'est moment perso, je ne peux répondre que notre mariage, ma chérie. Donc on fête nos 10 ans de mariage dans 2 semaines.
Ah, donc, félicitations.
Sur le plan perso, c'est évidemment celui-là. Enfin, en tout cas tous les moments qui sont liés à nous deux ou à nous trois avec ma fille. Sur le plan pro, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce que tout, on l'a dit tout à l'heure, c'est des montagnes russes. Donc
tout a participé.
Il y a autant de moments forts que de moments un peu plus durs. Mais je pense que les moments qui restent, pour moi, c'est les moments avec l'équipe. C'est les petits moments où on arrive l'espace d'une journée ou d'une semaine à juste prendre un tout petit peu de recul. Et se dire, ah ouais, c'est ça le chemin qu'on a fait. Et on a autour de nous une équipe qui est super contente.
Et on l'a fait ensemble.
Et on l'a fait ensemble. Ouais. Donc, je pense que c'est plutôt ces moments-là.
Premier apprentissage.
En général, de toute
manière. De la vie, ouais.
Elles sont dures, tes questions. Premier apprentissage.
Si c'est pas le vrai premier, je pense que c'est pas le sujet, mais c'est celui qui...
J'essaye dans celui qui me vient à l'esprit, mais... celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est aller à la pêche avec mon grand-père. Voilà. C'est le premier apprentissage de la pêche en mer.
Et avec un résultat
J'étais petit, donc dans mes souvenirs, c'était incroyable. On revenait toujours avec énormément de crevettes et de crabes. Quand j'en parle à mes parents, ils sont un peu sceptiques. Ma mère m'a dit qu'elle n'est pas si sûre que ça, qu'il y avait autant de résultats. Donc, honnêtement...
C'est bien les souvenirs qu'on s'invente aussi. C'est ce qu'on décide de garder. Premier renoncement.
Bah, je pense que c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure.
Ouais. Ouais.
C'était un vrai renoncement. Parce que c'était vraiment un truc que j'avais en moi, que je regrette pas. Honnêtement, je pense que je suis bien meilleur dans ce que je fais que dans le théâtre. Mais oui, ça a été un vrai premier renoncement. Ouais.
Premier coup de culot.
C'était peut-être ma première aventure entrepreneuriale.
Quel domaine ?
C'était complètement... J'étais au collège, peut-être, ou au lycée. Ouais, avec mon voisin, on s'était mis en tête de faire le samedi après-midi, on faisait le tour de toutes les maisons de notre quartier. Et on prenait des commandes de croissants, de pain au chocolat et de baguettes. Et le dimanche matin, on se levait à 5h du matin pour aller à la boulangerie, récupérer les commandes et les mettre dans des sachets plastiques et les mettre au poignet des portes du lendemain.
Quelle marge ?
Pas terrible. Pas terrible du tout.
Surtout, beaucoup ça m'a appris que c'était. Pour peu de marge.
Ça m'a aussi appris que j'étais pas vraiment du matin, qu'il fallait mieux que je trouve une activité qui ne nécessitait pas de se lever aussi tôt le dimanche matin. Mais c'était une bonne école aussi.
Première routine installée.
Première routine installée. Je suis pas très routine. J'aime pas les routines. Je suis assez.
Et pourtant, on dit souvent que certaines routines sont utiles.
Ah oui, j'en suis certain. Mais du coup, j'essaye de réfléchir à quelle routine j'ai pu.
Moi, celle qui vient, dont tu parlais tout à l'heure, mais j'en cherchais une autre, c'est celle avec tes associés, tu vois, tous les matins.
Dans la sphère professionnelle, ouais, ça, c'était sans doute une première routine. Ouais.
Tu l'as dit tout à l'heure, l'entrepreneuriat, ça attaque profond. On a parlé de montagnes russes, de haut, de bas. Je te propose de prendre une petite claque ensemble. Professionnel ou personnel, une claque qui a soit forgé l'homme que tu es, soit en tout cas qui a été riche en enseignement.
Oui, j'ai parlé tout à l'heure de cet actionnaire qui nous a mis quand même bien le dos au mur à un moment un peu critique de la boîte. Je pense que c'en était une. Une autre dont on parle encore peu, mais je pense que maintenant, il commence à y avoir prescription, mais on a failli vendre la boîte. C'était en 2016. C'était en 2016.
Et pour une boîte créée en 2013 c'est ouais. Ça, ouais.
Où, à l'époque, on n'était pas du tout dans une vocation de vendre, mais je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai expliqué l'histoire d'Akeneo, j'ai dit, nous, on s'est beaucoup collé à un acteur qui s'appelle Magento. Il se trouve que on s'était dit on vendra jamais sauf si c'est Magento qui nous approche. Et il se trouve qu'un jour c'est arrivé et beaucoup plus tôt que ce qu'on le pensait. Et
trop tôt peut-être.
Trop tôt, beaucoup trop tôt. Et on s'est posé beaucoup de questions à ce moment-là, de savoir s'il fallait qu'on vende ou pas. Et à un moment on a dit on le fait, go. Et pour des raisons que je ne peux pas expliquer, mais...
De l'ordre de certaines clauses, de montants...
C'est arrivé sur un timing qui n'était pas très bon. Il se trouve que il y a un jour où toute l'équipe de Magento a débarqué dans nos bureaux de Californie. Tout se passait très bien. Et un soir... Le type qui s'occupe du deal m'appelle et me dit à minuit et demi, Il me dit Fred, j'ai reçu l'ordre de rentrer. J'ai appris plus tard, et là ça rentre dans des trucs que je peux pas, que je peux pas vraiment dévoiler, mais qui sont pas des éléments liés à Keno en particulier. C'est lié à d'autres opérations qui étaient en cours du côté de Magento. Mais donc vraiment, le soir à 19h, on se tapait dans la main, on était tous projetés, on parlait de comment on allait s'intégrer, etc. Minuit et demi, il me dit, je m'en vais. 6h30, il prend son avion. C'était une grosse claque. En termes de montagne russe, c'est sans doute la plus hardcore qu'on ait eue.
Parce qu'au moment, en plus, on a décidé, entre associés, donc vous étiez trois, de vendre. Ça ne se fait pas. Ça passe quoi dans la tête, là?
C'est compliqué, parce que on commence à... Évidemment, tous nos investisseurs nous avaient dit, Fred, tant que c'est pas signé, c'est pas fait.
Comme toujours.
Des acquisitions. J'en ai vu plein dans ton podcast qui ont raconté ces histoires-là. Et c'est la réalité.
Mais n'empêche que tu te projettes.
Mais tu te projettes. Tu te projettes énormément. Et à un moment, tu commences à switcher dans ta tête. Tu commences à penser à l'après. Et d'un coup, tu t'es réhappé dans le quotidien. Et la conclusion de tout ça, c'est super que ça soit pas fait. Et que je pense que le destin, il y a un truc qui fait bien les choses. Ouais. Quoi. Parce que l'aventure est beaucoup plus belle depuis.
Oui, j'imagine que si vous vendez aujourd'hui, c'est plus non plus les mêmes notions. À l'époque, vous étiez déjà rentable?
On était sur le point d'être rentable.
Okay.
On était sur le point d'être rentable, mais on était, je sais plus, on était une soixantaine de collaborateurs à l'époque.
On peut parler d'une fourchette de montant de vente à l'époque.
C'était plusieurs dizaines de millions. C'était plusieurs dizaines de millions.
Déjà.
Déjà, oui.
Oui, donc forcément, quand on se projette, on se projette.
Ça fait réfléchir. Ouais. Quand on avait, tu vois, on se disait, quand tu me posais la question tout à l'heure de, quand on réévalue tous les ans avec mes associés, quand on a démarré, on s'est dit, c'est quoi votre chiffre et c'est quoi ton chiffre, tu vois. Et il se trouve que c'était le chiffre, quoi. Voilà. Donc, mais c'était le chiffre des trois fondateurs d'Akeneo il y a 10 ans.
2016, ouais.
Qui est plus du tout celui d'aujourd'hui. Mais, en fait, la leçon là-dedans, c'est une claque, mais je pense que tout arrive pour une raison. C'est pas une histoire isolée. Ça, je suis sûr que tous les entrepreneurs, ou la plupart des entrepreneurs ont des histoires similaires comme ça. C'est une vraie claque. Mmh. Ça pique un peu. Mais derrière, ça ouvre plein de super choses.
Depuis, vous avez eu d'autres tentatives de...
Oui, mais qu'on a toujours refusé. Il y avait vraiment ce truc un peu psychologique de...
c'est Magento ou personne.
Parce que Magento, c'était notre modèle. C'était la boîte. On essayait de reproduire ce qu'avait fait Magento dans l'e-commerce, dans le milieu du PIM. Donc, quand Magento est venu taper à notre porte, c'était... Ah,
oui, ça semblait évident.
C'était la conclusion à l'époque. En tout cas, c'était la conclusion qu'on imaginait à l'époque. Quoi. Voilà.
Et donc, si ce n'est pas Magento, ce ne sera jamais personne ?
Aujourd'hui, c'est pas ouais, du tout un
sujet.
C'est pas une préoccupation, c'est pas un sujet. Ouais.
Je te propose de passer à la carte blanche.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Je crois que tu veux nous parler d'open source.
Oui, je voulais parler d'open source parce que on en a parlé un petit peu en début d'émission. Je pense que l'open source a changé le monde du logiciel et la manière dont on consomme du logiciel. Tout est open source aujourd'hui. Enfin, tout est open source. Les bases de données qu'on utilise sont open source. Les serveurs d'applications sont open source. Les moteurs de recherche sont open source. L'open source a complètement changé le monde et le changé, mais pas uniquement sur le modèle en soi, mais sur la manière de construire et la manière d'innover. Et je pense que ce modèle open source, il n'est pas applicable qu'uniquement au monde du logiciel. Il y a eu un certain nombre de débats au moment du Covid sur les vaccins. Et pourquoi on ne mettrait pas les vaccins en open source ? Et j'ai la conviction que rendre open source les vaccins et un certain nombre de traitements, de recettes, permettrait non pas de détruire les laboratoires pharmaceutiques, mais par contre d'accélérer très fortement la recherche sur un tas de sujets.
C'est ce que pensent.
Eux, ils pensent ça. Ce qui est absurde, parce que des exemples de succès de boîtes qui ont fait des très très beaux, très très beaux business autour d'un modèle open source, aujourd'hui, il y en a plein des exemples. Dans les bases de données, les moteurs de recherche, Magento, que je citais tout à l'heure, Talend, une boîte française, enfin, il y en a plein. Donc, l'open source n'est pas antinomique avec la notion de faire du business. Parce que souvent, on dit « Ah, mais si vous faites ça, ça veut dire que ça va tuer les brevets. » Bah oui, tuons les brevets une bonne fois pour toutes. Les brevets, aujourd'hui, la notion de brevet, elle a un intérêt sur les notions de création intellectuelle et artistique. Elle n'a aucun sens sur l'innovation technologique. L'innovation technologique, dans le mot innovation technologique, il y a innovation. Donc l'innovation, c'est toujours une progression d'aller en avant. Si on partage toutes les connaissances, eh ben, évidemment qu'on va plus vite.
Ça évidemment tue l'innovation.
Bien sûr, les brevets tuent l'innovation. Ça crée une notion de boîte noire qui n'est jamais sain. Hein. On a eu plein d'exemples. Dans le monde automobile, il y a encore quelques années, où on a appris qu'en fait, les constructeurs automobiles trafiquaient un certain nombre de choses. Ça ne peut pas exister comme ça dans l'open source. Et quand on touche à des choses aussi sensibles que la santé, je pense que c'est un sujet qui est hyper important. Et il faut comprendre que l'open source, dans le logiciel, a permis d'avoir des logiciels plus sécurisés, plus performants, moins piratés. Enfin, il y a c'est pas juste une vue d'esprit, une vue éthique, un peu de un vœu pieux. Il y a un vrai enjeu d'innovation et d'accélération et de partage.
Comment on passe de leur modèle, si tu dois t'adresser directement à eux, à un modèle open source, justement pour pas perdre tout ce qu'ils ont investi peut-être? Parce que c'est ça leur crainte, c'est-à-dire on a beaucoup investi dans la recherche et maintenant on veut un retour sur investissement.
Mais bien sûr, et ils doivent continuer à investir, mais le retour sur investissement, il va passer sur la commercialisation de ce qu'ils font, pas sur la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, il faut qu'elle puisse être partagée, enrichie par tous. Eux, ça va les forcer à garder une longueur d'avance, d'être toujours les précurseurs, de toujours être en tête, et puis ils feront la commercialisation. Et là, nous, comment une boîte comme Akeneo vit ? On ne vit pas de la production de notre code, on vend de la commercialisation de notre code. Donc, c'est deux choses très différentes, et c'est ce qu'ils font déjà aujourd'hui. Donc, il n'y a pas... Je ne crois pas qu'il y ait de... Alors, est-ce que ça va éviter, effectivement, une inflation stupide sur un certain nombre de produits de première nécessité ? C'est probable.
Et c'est peut-être souhaitable.
Hein mais ça n'empêchera pas de faire du business. Et je pense qu'en fait, c'est inéluctable. La réalité, c'est que si eux ne le font pas, d'autres le feront à leur place. Il y a toute la séquence d'ARN messager du vaccin du Covid a été mise en open source déjà par une université du Texas en 2021. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en marche.
Ils ne sont pas pris en procès ?
Non.
Non ?
Non, parce qu'ils ont, c'est leur propre recherche qu'ils ont, mis à disposition de la communauté scientifique. Et je pense que c'est inéluctable. Donc, ils peuvent rester enfermés là-dedans et ils vont se faire bouffer comme les éditeurs de logiciels qui faisaient du propriétaire sont fait bouffer par les éditeurs open source. Donc, c'est peut-être bien d'être précurseur parfois.
Eh bien, écoute, c'est noté. Sinon, il y a peut-être des auditeurs qui se demandaient sur quel business aller, comment craquer un secteur. Bah, c'est peut-être...
Ça demande un peu d'investissement. Il y a une petite mise de base importante. Mais...
Peut-être des investisseurs qui sont prêts à suivre hein, sur un projet comme celui-ci. Vous êtes bien... Aller chercher des envies.
Bien sûr. Ouais.
C'est peut-être d'ailleurs pas facile le tout début, les convaincre de.
C'est compliqué. Ouais. C'est étonnant parce que je pensais que ça allait être simple. Je pensais que ça allait être simple parce qu'on avait un peu cette carte magique qui était un de mes. On avait avec nous l'un des fondateurs de Magento, justement, qui était actionnaire et qui effectivement nous a ouvert des portes. Mais qui nous ont ouvert des portes et qui se sont refermées assez rapidement parce que nous, on avait zéro track record, on venait du monde du service, pas du monde du logiciel, et on avait juste un PowerPoint, quoi. On n'avait pas vraiment de logiciel. Donc la première levée a été vraiment compliquée, ouais, laborieuse.
Mais comme quoi, tout arrive à condition d'avoir un peu de persévérance, j'imagine.
Ouais.
On va quasiment conclure cet échange après ce jingle. C'est le moment Sista. Tu as déjà choisi ta Sista, je le sais.
Oui.
Tu peux nous parler
d'elle. Oui, bah j'ai recommandé Laure Bouguin, qui est la fondatrice d'une marque qui s'appelle Ocaran. Ocaran, c'est une marque de cosmétique. Alors maintenant, elle fait plus que de la cosmétique, mais initialement, c'était de la cosmétique à base de chanvre. C'est une entrepreneuse incroyable, d'une résilience. Pour moi, c'est un modèle de résilience. Donc, j'ai hâte d'entendre qu'elle vous raconte son histoire. Mais ouais, c'est quelqu'un d'exceptionnel et qui se bat encore aujourd'hui dans un milieu qui est extrêmement régulé, extrêmement contraint. Il faut comprendre aujourd'hui que quand on est une marque et qu'on touche au cannabis, ben on ne peut pas faire de pub sur Facebook, on ne peut pas faire de pub sur Instagram.
Attends, il y a du CBD qui marche, qu'on voit partout fleurir. Absolument. Sans jeu de mots dans les rues.
Il y a un décalage énorme entre l'usage, là où on est la société aujourd'hui, et la réglementation. Elle ne peut pas prendre de paiement en ligne avec la plupart des paiements. Elle ne peut pas faire du PayPal, elle ne peut pas faire du Stripe. C'est extrêmement contraint. Il y a une réglementation qui change
tout le temps.
Oui, mais t'as
raison, il y a des paradoxes. Je crois que tu ne peux pas faire pousser du chanvre en France ou quelque chose. Ou du CBD, je crois que tu ne peux pas le faire en France.
Elle en parlera beaucoup mieux que moi. Mais si, le chanvre, c'est une industrie qui existe en France depuis longtemps.
C'est
quelle partie de la plante on peut utiliser ou pas, qui est important. Et quoi qu'il arrive,
et
de
donc
toute
elle,
façon,
elle en fait, pardon, je t'ai coupé.
Ouais, elle en fait avec du CBD. Elle utilise du CBD dans certaines de ses cosmétiques et de ses produits.
O-K-O-K-A-N, ouais, c'est ça.
H-O, plus loin, K-A-R-A-N, ça veut dire je t'aime en breton. Je vous aime.
Quelle question tu aimerais lui poser, que Solène, notre associée, lui posera en ton nom?
Moi, j'adorerais que Laure puisse nous dire...
Tu peux t'adresser directement
à elle. Laure, toi, on a beaucoup parlé de montagnes russes dans cet épisode. Toi, tu en as vécu un grand nombre, un très, très grand nombre. Comment tu fais pour garder la foi constamment après tellement, tellement, tellement de rebondissements dans ton aventure?
Eh bien, cette question lui sera posée. Un grand merci, Frédéric. On était avec Frédéric de Gombert, CEO d'Akeneo. C'est un plaisir.
Plaisir partagé.
Ouais, on met cet épisode en open source, comme tous les autres, pour la postérité et l'innovation entrepreneuriale. Merci à toi.
Merci Thomas.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.